RCF.
RCF Isère, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La valeur de l'homme, penser et agir en Asie, deuxième partie. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Valeur de l'Homme. En 1934, quelques mois après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, Emmanuel Levinas publie un texte très fort, intitulé « Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme ». Il y écrivait « La philosophie d'Hitler est primaire, mais les puissances primitives qui s'y consument font éclater la phraséologie misérable sous la poussée d'une force élémentaire. Elles éveillent la nostalgie secrète de l'âme allemande. Plus qu'une contagion ou une folie, l'hitlérisme est un réveil des sentiments élémentaires. La philosophie de l'hitlérisme met en question les principes mêmes d'une civilisation. Le conflit ne se joue pas seulement entre le libéralisme et l'hitlérisme, le christianisme lui-même est menacé. » Plus loin, Levinas montrait comment le nazisme entendait fabriquer un individu dont l'être serait littéralement rivé à son corps. Le philosophe Miguel Abensur, commentateur du texte de Levinas, montre que l'hitlérisme a accordé un privilège total à l'expérience du corps, à l'enchaînement qui détermine un mode d'exister spécifique, à savoir l'être rivé, assigné à son corps, un nouvel être emprisonné. Abensur conclut même à la réduction d'un peuple entier à l'être rivé. Il y a donc bien, si l'on suit l'approche de Levinas, une philosophie de l'hitlérisme, car les deux mots ne vont pas mécaniquement ensemble. Il y a en tout cas une idéologie nazie, une éthique faite de normes et de mythes. Il y a un univers mental et de représentation nazie, une vision du monde, un vocabulaire propre, forgé pendant des années par divers idéologues soucieux de donner une armature théorique au national-socialisme. Ce matériau intellectuel a souvent été négligé au profit d'une historiographie du nazisme davantage centrée sur la personne de Hitler et de divers dignitaires nazis dont Eichmann, ou centrée sur une approche structurelle du nazisme. Or, il faudrait plutôt, à nouveau frais, prendre au sérieux ce matériau intellectuel nazi et ainsi restituer les cadres mentaux dans lesquels les nazis lancent leur guerre contre les peuples européens et en particulier contre les juifs. Ce travail a été entrepris par mon invité, Johann Chapoutot, dans un livre colossal, La loi du sang, penser et agir en Asie, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires en 2014. Bonjour Johann Chapoutot.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Johann Chapoutot, vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, membre du prestigieux Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste de l'idéologie du nazisme et de sa généalogie, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Dans notre première émission, nous avons vu l'importance de la race et du biologique dans la pensée nazie, ainsi que son hostilité à toute construction, notamment la construction législative, toute construction qui ne procéderait pas d'une immanence du peuple. On va essayer de voir aujourd'hui toute la violence, au fond, dont cette pensée est porteuse. J'aimerais qu'on, pour assurer une continuité avec notre émission d'il y a deux semaines, rester sur cette question de la race, et en particulier, alors là, sur un concept développé en Allemagne, qui est la notion d'hygiène raciale et de sélection des plus forts, qui est un des meilleurs ariens, qui est absolument central dans la pensée nazie. Un juriste nazi parle même d'une unité bionomique de sang nordique. Où est-ce qu'on est ? On est dans ce que Foucault appellerait le biopolitique, c'est-à-dire le contrôle de la vie biologique même de toute la population. Alors un contrôle individuel, mais un contrôle de la biologie du peuple allemand en entier. C'est ça l'idée ?
Oui, j'aimerais d'abord revenir sur l'hygiène de la race. Rassenhygiene en allemand, c'est le nom que l'on donne à l'eugénisme. Alors le mot eugénique existe, mais le mot Rassenhygiene est plus courant. Et l'eugénisme, on le disait déjà il y a 15 jours, est très présent comme pointe avancée de la science et comme instrument possible de l'action politique pour régénérer une population bien endommagée par la Grande Guerre, démographiquement, quantitativement, qualitativement. L'eugénisme, la Rassenhygiene, semble être une réponse à bien des angoisses du temps sur la dégénérescence qualitative et quantitative des populations occidentales. Et c'est le cas également en Allemagne. La référence à Foucault est intéressante. Alors Foucault en parle dans ses cours au Collège de France, mais il en parle
un peu rapidement peut-être.
Voilà,
il ne s'attarde pas dessus.
Non, il ne s'est pas plongé dans tout ce continent de littérature grise, tout simplement parce que les philosophes comme les historiens ont délaissé cette littérature normative nazie, celle des anthropologues, des historiens, des médecins, des juristes. Enfin, les juristes ont plus été étudiés par des historiens du droit en Allemagne. Il y a une grande école d'histoire du droit et du droit nazi en Allemagne. Mais pour le reste, si vous voulez, on estime, on part du principe que ce qui est important, et vous le disiez dans votre saisie de l'historiographie, ce qui est important dans l'étude du nazisme, c'est l'étude des actes. Et qui ont été nombreux, ils ont beaucoup agi. Alors mon livre est sous-intitulé « Penser et agir en Asie ». Agir en Asie, oui, ça s'est étudié. Études structurelles, études logistiques, administratives, études concrètes, sociales, hein, d'histoire sociale. Penser en Asie, là, c'est plus oxymorique. Hein, c'est la fameuse philosophie d'hitlérisme dont vous parliez avec Lévinas. Donc penser en Asie, on garde cette idée du facho éternel, si vous voulez, aux cheveux ras et aux idées courtes, le facho de la matraque et du manganello et de l'huile de ricin. Mmh. Or, le nazisme, ce n'est pas que cela, et Christian Ingrao l'a très bien montré en France avec son étude sur les cadres du SD, le service d'enseignement de la SS, étude d'histoire sociale, culturelle et intellectuelle, de ces jeunes trentenaires qui, dans les années 30, sont bardés de diplômes. Michael Wildt, en Allemagne, l'a fait également pour l'élite du RSHA, de l'Office central de sécurité du Reich, SS, SD et Gestapo. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup d'intellectuels qui travaillent, et qui travaillent lire l'histoire, à interpréter le présent, et à ouvrir sur un avenir qui soit informé par la connaissance scientifique du réel. Et ces gens-là promeuvent des normes nouvelles, et ils écrivent d'autant plus qu'ils savent que ce qu'ils promeuvent, eux, est choquant. Tuer les malades, se débarrasser des personnes âgées, hein, je l'ai lu, ça aussi. Hein. Bon, la progression de l'espérance de vie, c'est bien, mais c'est aussi un problème. Donc peut-être qu'il faudra imaginer des solutions. Le chef des médecins du Reich, Gerhard Wagner, dit l'Allemagne n'a pas vocation à devenir un asile pour personnes âgées. Bon, il ne dit pas autre chose, mais il suggère des choses. Donc ces idées-là sont choquantes, ils le savent. Ils sont... tous ces acteurs et penseurs du nazisme, soucieux de légitimer ces idées et ces solutions radicales, en montrant qu'elles ne choquent que des normes, qu'elles ne contreviennent qu'à des normes qui ont été importées tardivement par le christianisme, le judaïsme, le libéralisme, la révolution française, etc., et qui sont néfastes à la race nordique. Il faut revenir à la première inspiration de la race, à son authenticité naturelle, à son essence qui est sa naissance, hein, les deux mots sont essence et naissance, ici se rejoignent très bien, et cette race germanique originelle, eh bien, procréait beaucoup, se battait sans entrave ni contrainte. Il faut lever toutes les entraves à l'action du corps germanique. Procréation, combat.
Cette idée-là, que ces idées sont choquantes et qu'elles étaient perçues comme telles à l'époque, ça renvoie à l'idée qu'elles sont choquantes parce que d'abord elles sont effectivement contre des normes anciennes dont la légitimité quand même à un moment avait été forte, mais surtout parce qu'elles sont au fond porteuses de violence. Il y a l'idée qu'il faut combattre, mettre à mort tout ce qui peut gêner ce peuple allemand. Alors ça va être les handicapés, donc il y a un programme, ça peut être les Slaves, ça va être les Juifs. Bon, il y a quand même cette idée-là, et donc on est en présence, au fond, d'une idéologie qui justifie la violence pour réguler le corps social, ou pour réguler le corps biologique allemand.
Oui, qui justifie la violence létale, en l'occurrence, hein, qui justifie la mort. C'est la mort et la violence mortelle qui est totalement assumée hein, par les nazis. Mais dans une double logique. Si on prend le discours de Poznan, Posen en allemand, qui a été prononcé par Himmler en octobre 1943 devant des cadres administratifs et militaires et policiers de la SS, il parle ouvertement de la Shoah, ce que les nazis appellent, eux, la solution finale. Bon. Et il décrit, dit voilà, nous savons, nous, ce que c'est que d'être face à un tas de 100, 1000 corps. Nous avons vu ces images terribles et nous sommes restés dignes face à cela et nous avons accompli notre mission. Bon. Donc il revendique complètement ce qui s'est fait, bien entendu. Et il le justifie parce que c'était un acte nécessaire, c'était eux ou nous et il fallait tuer les Juifs, etc. Bon. Et en même temps il dit, surtout n'en parlons pas. Alors là, il y a une contradiction, s'il se revendique pleinement de la légitimité, de la nécessité de leur action, pourquoi le cacher? Eh bien parce que Himmler, il ne le dit pas ouvertement, mais il le suggère. Il suggère que les Allemands ne sont pas encore mûrs pour comprendre et accepter cela. Dans quelques générations, on pourra en parler, sans doute, mais pas maintenant, parce que les Allemands sont encore trop pétris de libéralisme, d'humanisme, de christianisme, enfin bref, ils sont trop sensibles. Toute cette sensiblerie humanitariste les empêche de voir que une élite qui a compris les lois de la nature, et donc les lois d'histoire, a pris en charge leur destin en faisant ce qui était à faire et qui était difficile à faire, c'est-à-dire tuer des millions de personnes.
Une élite avant-gardiste, mais pour l'instant, le peuple allemand ne peut pas comprendre. La violence atteint, du coup, comme c'est une violence à mort, c'est une violence qui atteint des sommets, puisque c'est une violence, au fond, qui renvoie à une peur existentielle et qui est d'ordre donc apocalyptique. Hein, c'est systématiquement une lutte à mort. On va revenir, évidemment, sur la Shoah, mais parmi les ennemis qui n'appellent aucune humanité, il y a les prisonniers de guerre soviétiques. On connaît mal toute cette histoire-là. On commence à avoir des choses qui arrivent, mais on connaît mal. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce qu'il advient de ces prisonniers de guerre soviétiques?
Oui. Alors, on, c'est-à-dire en France, on connaît mal cette histoire parce que ça a été beaucoup étudié par les collègues allemands. Alors, pour résumer, il y a un chiffre qui parle tout seul, je pense. En quelques mois, plus de 3 millions de prisonniers soviétiques meurent. En quelques mois. C'est-à-dire qu'ils sont parqués dans, comme du bétail, mais sans nourriture, dans des enceintes de barbelés, sans abri, exposés aux éléments, sans nourriture, et ils meurent très vite. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est un racisme, vertical, si vous voulez, hein, qui tombe de l'élite germanique vers ces Slaves qui sont considérés comme des sous-hommes. Hein. Quand on parle de sous-hommes, dans l'imaginaire nazi, ce sont les Slaves. Et d'ailleurs, les nazis n'éprouvent pas de culpabilité à les considérer comme des sous-hommes parce qu'ils estiment que les autres puissances coloniales, parce qu'eux-mêmes se considèrent comme une puissance colonisatrice, les autres puissances coloniales ont leurs sous-hommes aussi, les Noirs, les Asiatiques, les Maghrébins, etc. Donc les Slaves sont les sous-hommes, et dans les calculs des technocrates du nazisme, de l'Office central de la race et de la colonisation de la SS, du commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité, qui est également confié à Himmler, ces experts, professeurs d'université en géographie, économie, histoire, démographie, linguistique, hauts fonctionnaires, stratèges militaires et policiers, ces experts estiment que sur les 130 millions de Slaves, Pologne inclus, il y en a 30 millions de trop, et ces 30 millions devront disparaître par la famine. Eh bien, dans ce calcul-là, les 3 millions de prisonniers soviétiques rentrent dans l'addition. Si
oui, ils sont simplement un élément d'un programme oui. Utopique de mise à mort de dizaines de millions de Slaves oui. En Europe. Oui. Il y a cette idée, alors vous avez parlé de puissance coloniale, il y a cette idée que le peuple allemand a besoin d'espace, a besoin de se développer pour trouver sa pleine mesure. Il y a l'idée d'un Lebensrecht, un droit pour le peuple allemand de vivre, et ça implique alors une conquête de territoire oui. qu'on connaît, mais qu'on a tendance à moins considérer que la guerre elle-même. Mais il y a cette idée d'une conquête vitale. Est-ce qu'on peut en dire un mot? C'est-à-dire qu'au fond, la conquête des pays de l'Est, elle n'est pas que militaire. Elle renvoie aussi à cette question biologique qui inquiète les nazis.
Tout est lié, en fait. Vous parlez de Lebensrecht, c'est-à-dire de droit vital et de droit à la vie en même temps, de droit de la vie et à la vie. Hein. Et ce terme de Lebensrecht est bien entendu lié à celui de Lebensraum, hein, d'espace de vie, d'espace
ouais,
vital.
Vital ouais.
Lebensraum qui, on le voit, est la germanisation de biotope. Hein. Bios Leben, Topos Raum, c'est un terme scientifique qui a été transposé ensuite à la géopolitique, à la géographie et à la politique. Et l'idée est simple, c'est que, comme toute espèce animale, l'homme, l'espèce humaine ou une race a besoin d'un espace dont elle tire sa subsistance vitale. De ce point de vue-là, la race germanique est défavorisée par l'histoire, puisque d'autres peuples ont leurs colonies. Hein, l'interland colonial des Britanniques, des Français, des Belges, des Portugais, des Néerlandais et des Américains, avec leur empire colonial à domicile, cet interland, c'est un Lebensraum, c'est un espace vital, on va pomper les ressources pour augmenter la vie et la puissance de la nation ou de la race. Eh bien, l'Allemagne a peu de colonies, elle en a plus ensuite après 1919, c'est une injustice. Autrement dit, les nazis opposent le Lebensrecht, droit de et à la vie, au Recht, au droit, au Völkerrecht, au droit international qui est abstrait et qui a été au fond élaboré par les ennemis de l'Allemagne pour tuer l'Allemagne. Mmh. Et donc on va violer le droit international et le droit de la guerre, le droit des gens, mais parce qu'on obéit tout simplement à la nécessité vitale et biologique d'avoir les subsistances que la race germanique mérite.
et on obéit aux nécessités du peuple, c'est-à-dire que les nazis ne veulent pas s'encombrer des frontières telles qu'elles peuvent exister en Europe, donc ils ont aussi une conception très particulière des relations internationales, qui pour eux ne sont pas, je le simplifie, des relations entre États, mais des relations à la limite entre peuples, et donc ce qui compte c'est le peuple allemand, y compris notamment ces minorités allemandes qui sont un peu éparpillées, et là il faudrait les relier. Et donc, il y a aussi une vision du territoire européen où le peuple allemand serait un tout, et en tout cas, au-delà des frontières étatiques.
Un tout compact et homogène, avec un rassemblement, une forme de concentration ethnique dans une logique pan-germaniste assez classique. Hein. Donc là, ils mettent leur pas dans... Sauf qu'ils le font, eux. Ils mettent leur pas dans les pan-germanistes, dans ceux des pan-germanistes. Donc, ça implique les Sudètes, ça implique l'Autriche, ça implique les Allemands de Siebenbürgen, enfin, en Roumanie. Ça implique également les communautés allemandes... qui sont présentes en Russie, dans la Baltique, etc. Donc ça, c'est le premier mouvement, concentration ethnique, et ensuite diffusion ou projection ethnique par la conquête d'un espace vital et l'asservissement d'une masse d'esclaves, en l'occurrence 100 millions de Slaves, qui vont travailler aux fins de la race germanique. Hein. Reinhard Heydrich, numéro 2 de la SS, le dit dans un discours à Prague en octobre 1941, « Nous allons ilotiser l'Europe, ilotiser au sens des ilotes spartiates. Il y a une petite hiérarchie raciale qui est la race nordique et des masses à asservir. Donc c'est un projet colonial gagé par l'expérience d'une communauté germanique, censément germanique, qui sont les Spartiates et qui ont fait déjà cela dans l'Antiquité.
La valeur de l'homme, penser et agir en Asie, nous sommes en compagnie de Johann Chapoutot. Une immense partie de la pensée nazie est constituée de fantasmes historiques ou revivifiés sur les juifs qui sont pris systématiquement comme un contre-modèle de culture et de pratique. Et donc une immense partie de la pensée nazie se produit contre la vision juive du monde ou la prétendue vision juive du monde. Donc les nazis vont dénoncer l'abattage rituel, la question, le rapport compliqué à la chair, l'aide aux plus faibles, etc. etc. Alors je dévoile pas tout, mais qu'est-ce qui se joue dans ce rapport d'adversité à l'égard et de haine à l'égard du judaïsme? Et peut-on dire que la pensée nazie est une tentative pour refonder une civilisation complète qui aurait réussi à s'arracher de la gangue judéo-chrétienne?
Alors, vous demandez ce qui se joue. Il faut voir aussi ce qui se rejoue, en fait, ou ce qui rejoue dans cette histoire. c'est un vieil antisémitisme très classique dans l'Occident chrétien, l'Occident, c'est-à-dire Europe et les autres Occidents qui sont informés culturellement par le christianisme. Les pires poncifs hérités de l'antijudaïsme chrétien sont là, le juif déicide, traître, voleur, assassin, mangeur d'enfants, bref, tous les défauts, violeur, enfin bref, c'est bon. Collection de poncifs idiots qui ont été particulièrement virulents au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où Révolution française et ses conséquences aidant, libéralisation juridique et politique aidant, les Juifs ont obtenu leur émancipation, c'est-à-dire leur accession à la quasi pleine citoyenneté un peu partout en Europe, en France d'abord et dans d'autres pays européens ensuite. Les Juifs sont sortis des ghettos, donc, ont eu une existence, et ça a provoqué, si vous voulez, tous les discours antimodernes, anti-révolutionnaires, contre-révolutionnaires du XIXe siècle sont à un moment ou à un autre antisémites. Les Juifs, ou le Juif, pire, hein, comme espèce
comme essence,
de figure, voilà, comme essence. C'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'antisémitisme ontologique, hein, si vous voulez, et fantasmatique. Le Juif, donc, avec un J majuscule, étant considéré comme une figure de cette modernité destructrice, dévastatrice des valeurs traditionnelles, des communautés traditionnelles, des nations. Il est apatride, donc c'est contre le principe national du 19e siècle. Il est nomade, il est cosmopolite, il est malhonnête, etc. Les nazis, prennent en charge cet héritage, hein, ils en héritent, dans un contexte apocalyptique qui est celui de l'Allemagne en 1919, une défaite totalement incompréhensible, les communiqués de victoire tombaient tous les matins, et subitement on vous dit on a perdu. Donc dans ces moments-là, vous qui êtes spécialiste du complot, entre autres, vous le savez bien, le complot ou l'imaginaire complotiste, c'est une espèce de causalité démoniaque que l'on convoque quand on n'a pas d'explication. Et les grands traumatismes sociaux, Révolution française, Révolution bolchevique, défaite de 1919, etc., voient surgir des imaginaires complotistes. Bon, alors là, ce sont les Juifs, puisque en gros, si vous voulez, les Juifs sont l'altérité disponible en Allemagne à cette époque. Il n'y a pas d'immigration issue des colonies, donc voilà, il n'y a pas de Maghrébins, il n'y a pas de Noirs, il y a des Juifs, et il y a cette tradition d'antisémitisme très virulente et pluriséculaire. Et les nazis héritent de cela et vont plus loin en opposant systématiquement l'homme germanique aux Juifs. D'un côté, le sédentarisme, de l'autre côté, le nomadisme. D'un côté, la forêt et les lacs, de l'autre côté, le désert. D'un côté, l'énergie vitale, l'instinct, de l'autre côté, des ratiocinations rabbiniques et talmudiques. D'un côté, la force de vie, la pleine santé, de l'autre côté, la maladie et le malaise et le mal-être. D'un côté, la paix, la fécondité, de l'autre, la malignité, la guerre et la stérilité. Enfin bref, des oppositions.
La sexualité d'un côté et puis le péché de chair de l'autre.
Absolument. Ouais, ouais, voilà. Et d'un côté la maîtrise de soi, de l'autre côté le débordement oriental. Bref, vous avez des oppositions terme à terme qui nourrissent ce qu'on appelle à l'époque une Kultur critique, c'est-à-dire une critique de la civilisation. Civilisation qui est censée avoir été dénaturée, acculturée par l'invasion et la subversion juive par l'intermédiaire du christianisme.
C'est-à-dire que le christianisme est considéré comme le faux-né d'un judaïsme et comme une religion absolument orientale, absolument étrangère aux traditions européennes, qui arrive et dont les valeurs auraient tout contaminé et auraient, au fond, dénaturé ce qui aurait dû être l'essence allemande que les nazis essayent de reconstituer systématiquement.
C'est un poison inoculé par l'évangélisation à la race germanique, très, très clairement.
Vous écrivez dans votre ouvrage, il faut rappeler qu'aux yeux des plus hauts responsables nazis et antisémites convaincus, la Shoah est une guerre. Alors, ça c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas dans l'historiographie de la Shoah, l'idée de la Shoah comme guerre dans une guerre. Est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est-à-dire, il y a une guerre qui se joue, qui est une guerre contre les Juifs, et qui au fond est une guerre quasi autonome, pensée de manière autonome par rapport à la guerre normale, mais à la guerre entre belligérants. Il y a cette idée-là, en fait.
Alors, c'est même pire que cela. C'est pas une guerre dans la guerre, disons que la guerre contre les Juifs, ou plutôt la guerre des Juifs contre la race germanique, parce que ce sont eux qui commencent, hein, bien entendu, cette guerre-là subsume ce cas particulier, ces cas particuliers que sont la Première Guerre mondiale, la Seconde, la guerre de 30 ans, et en remontant dans l'histoire, les guerres médiques, provoquées par les Juifs contre la Grèce, les guerres puniques provoquées par les Juifs contre Rome. Enfin bref, vous avez une relecture de l'histoire sous ce jour-là. 6000 ans de guerre raciale, disent des fascicules de formation idéologique du parti. Les Juifs, être mélangés, mauvais, veulent détruire l'humanité nordique depuis l'aube des temps. Et de ce fait, l'histoire de la race germanique est un long martyrologe qui vous arrache des larmes, d'ailleurs, hein, lorsque vous écoutez Himmler rappeler les malheurs de la race germanique, parce que l'homme germanique, naïf, bon, aimable, n'a jamais su se défendre face à ses ennemis haineux. Ce que proclament les nazis, c'est que eux ont compris. Eux ont compris les lois de la nature, ils ont compris que la biologie régissait tout et qu'une biologie malade, celle des juifs, attaquait une biologie saine. Et qu'il fallait réagir biologiquement, chirurgicalement, par la séparation totale, dans un premier temps, des juifs hors du corps allemand. D'où la politique allemande de 33 à 41, qui consiste à mettre les juifs dehors, à les pousser à l'émigration. En 41, cela change. Selon des modalités sur lesquelles on va sans doute revenir.
Alors, allons-y. Non, mais voilà, c'est-à-dire que de 33 à 41, il y a une série de lois vexatoires, oui. Voilà, on va accoler des noms israélites, etc. Bon, et à partir de 41, pour le coup, là, on bascule dans une violence organisée et industrielle.
Alors, de 33 à 41, ce sont des lois et des décrets, plus de 400, qui visent à rendre la vie des Juifs impossible en Allemagne. Vous ne pouvez plus acheter de baguettes de pain, de litres de lait, vous ne pouvez plus vous promener, faire vos courses, avoir une voiture, avoir
exercer
un instrument
de métier, tel ou tel métier, il y a des listes, etc.
Allez vous baigner, vous asseoir sur un banc, prendre le tram, c'est plus possible. Bon. Donc, cette politique est un succès du point de vue nazi, dans la mesure où plus de la moitié des juifs allemands et autrichiens partent. Hein. Pour ce qui reste, à partir de 1941, vous avez une interdiction d'émigrer, à l'automne 1941. Parce qu'à partir de ce moment-là, dans le sillage de ce qui commence à se passer à l'Est, dans le cadre de l'opération Barbarossa, ce qui est considéré par les nazis comme l'élite juive de l'Union soviétique, c'est-à-dire un paysan misérable d'un shtetl abandonné qui est considéré comme un grand manipulateur mondial, ces gens-là sont systématiquement tués par les Einsatzgruppen de la police et de la SS. Opération de massacre, qui commence dès juin 1941 et qui évolue vers le génocide, c'est-à-dire vers l'élimination totale. Non seulement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Donc on passe au génocide. Donc il y a un franchissement de seuil qui est opéré dans le cadre de l'opération à l'Est. Et à l'Ouest, ce qui était envisagé, c'était une émigration forcée, un passage par les ghettos, puis une expulsion forcée, soit vers Madagascar, qui devient irréaliste comme solution parce que les nazis n'ont pas la maîtrise des mers à cause des Britanniques, soit vers l'Est, le Nord, la Sibérie, le cercle polaire, des déportations abandon qui consisteraient à mettre les gens des ghettos dans les trains et à les abandonner sur place, très loin, et survivre qui pourra. En tout cas, on se sera débarrassé des juifs comme cela. Tout cela devient impossible parce que le front de l'Est est muré par la résistance soviétique. Et c'est dans ce contexte-là, à la fin de l'automne 1941, au moment où l'Allemagne se retrouve prise dans une guerre sur deux fronts, à l'Est et à l'Ouest avec l'arrivée des États-Unis, que, vraisemblablement, comme le montre Christian Gerlach, à la mi-décembre 1941, peu après l'entrée en guerre des États-Unis, la décision est prise de tuer les Juifs de l'Ouest. Ce qui est beaucoup plus difficile, à la fois techniquement et logistiquement, parce qu'il y en a trop, et aussi psychologiquement, parce que les Juifs de l'Est ne ressemblent pas aux bourreaux. Ils sont très religieux, ils sont pauvres, ils sont misérables, ils parlent différemment. Les Juifs de l'Ouest, c'est le voisin, c'est le médecin, c'est l'ami, c'est un monsieur décoré de la croix de fer parce qu'il a combattu pendant la Grande Guerre. Bref, c'est un autre soi-même. Et ça, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, il va falloir durcir ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire creuser un fossé entre des gens qui, globalement, sont extrêmement semblables. J'aimerais qu'on termine par une vision paradoxale qu'a Hitler, c'est-à-dire qu'au fond, Hitler, malgré le dessein glorieux qu'il promet au peuple allemand, n'aime pas le peuple allemand, ou en tout cas considère que ce peuple n'est pas à la hauteur de sa mission. Il veut même le liquider. À un moment, il y a ce projet-là ?
Oui, alors ça c'est à la fin, hein, quand il se trouve dans le bunker et que la situation militaire est désespérée, Hitler signe un ordre de destruction du territoire du Reich, politique de terre brûlée pour ne rien laisser derrière soi, et c'est Speer, le ministre de l'équipement et de l'armement, qui intervient en disant « Écoutez, votre décret du 19 mars 1945, on ne peut pas l'appliquer parce qu'on a besoin de ces infrastructures, silos, ponts, réservoirs, routes, pour l'après-guerre. » Et Hitler répond « Il n'y a pas d'après-guerre. » C'est fini. Là, l'histoire, c'est la lutte de races. Les meilleurs s'imposent et exterminent les plus faibles. Je suis obligé de constater que les meilleurs se trouvent à l'Est et le peuple allemand va disparaître. De toute manière, ils se sont mal battus, ils étaient indignes de cette grande idée, indignes de la nature, indignes de la biologie et indignes de moi.
Donc une forme de nihilisme et de pessimisme historique. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Johann Chapoteau. Je rappelle le titre de votre livre, La loi du sang, penser et agir en Asie. C'était la dernière émission de la saison. Je tiens à remercier Maxime Barral, Nicolas Boutry et Clémentine Métainier. À très bientôt sur RCF. Merci pour votre fidélité.